Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati.
Au sommaire de ce journal, le comité international de la Croix-Rouge vole au secours de plus de 5000 ménages de déplacés retournés de Calais au sud Kivu. Cet appui humanitaire constitué des vivres et biens essentiels. Le choléra fait rage à Kindu dans la province du Maniema. Le nombre est passé de 4 à plus de 10 malades par jour. Le responsable de l'hôpital général des références de Kindu appelle la population au respect des mesures d'hygiène. L'invité de ce journal est Josué Aruna, coordonnateur du bureau de la société civile environnementale au sud Kivu. Il s'exprime sur les éboulements et glissements des terrains dans le territoire de Calais et Fizi. Bonjour à tous. Sud Kivu pour commencer. Environ 5880 ménages de déplacés et retournés de Calais bénéficient de l'assistance alimentaire et des biens essentiels des ménages de la part du comité international de la Croix-Rouge CICR. L'opération a démarré hier à Loako en attendant de se poursuivre à Mungongoza puis à Nyabibwe. Ronelyne Tibonera pour les détails.
Le CICR Sud Kivu indique que la durée va s'étendre sur plusieurs jours. Chaque ménage reçoit 25 kg de farine de maïs, 12,5 kg de haricots, 5 litres d'huile végétale et 1,5 kg de sel de cuisine. En plus de vivre, le CICR distribue des biens essentiels de ménage composés des couvertures, des nappes, des casseroles, des assiettes et d'autres ustensiles de cuisine. Des pièces d'habits pour dames font aussi partie des kits reçus. La déléguée au CICR Diara Toubamba revient sur la motivation de leur action.
Le CICR, à la suite d'une évaluation de la situation et des besoins de ces populations déplacées, retournées par la suite, a constaté une situation difficile pour ces ménages retournés et déplacés qui sont en difficulté de consommation alimentaire en ce moment. Il manque aussi des biens essentiels des ménages. Voilà pourquoi le CICR a initié cette assistance.
La plupart des nécessiteux sont des victimes de la catastrophe du 4 mai 2023 à Calais et dont la vulnérabilité s'était accrue avec la guerre de l'AFC 1-23, soutenue par le Rwanda.
Dans la même province du Sud Kivu, la tension toujours perceptible ce mercredi dans les villages Tchofi, Kacheki dans Calais et Akabamba, Mabingu dans Kabaré. Des combats se poursuivent entre les Wazalendo et les éléments de l'AFC M23 dans cette partie de la province. L'AFC M23 est revenu à la charge après le repli lui imposé hier soir sur la ligne de front, selon des témoins. Le point avec Rachel Kessé.
Les hostilités ont débuté hier sur l'axe Kacheke-Limera dans le territoire de Kalehe. Les deux forces s'y sont neutralisées durant toute la journée. C'est en début de soirée que les rebelles M23 se sont vus repousser de Katasomwa jusqu'au port de Kacheke et de Tchofi. D'après nos sources dans la zone, le M23 a relancé les combats ce matin grâce aux renforts reçus de Bukavu et Goma, autant bien en hommes et en munitions. L'objectif affiché des M23 est de parvenir à chasser les Wazalendo de position qu'il contrôle le long de la route nationale numéro 2 qui relie Bukavu et Goma. Pendant ce temps, la population civile erre dans la nature. Certains habitants ont fui en direction des îlots d'Ioka et Ichovu dans Kalehe, tandis que d'autres se sont dirigés vers Kajuchu dans le territoire voisin de Kabaré. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu, mais les conséquences humanitaires sont réelles.
Entre-temps, à Kisangani dans la Tchopo, les acteurs de la société civile sont sensibilisés pour prévenir contre d'éventuelles violences dues au discours de haine et la désinformation pendant la période électorale et post-électorale. Cette activité est organisée par Congo Peace Network, une ONG basée à Goma, dans le Nord Kivu. Une centaine de personnes participent à cette activité dont l'objectif est de consolider la cohésion sociale pour le mieux vivre ensemble dans cet espace, victime des conflits et des tensions sociales durant plusieurs années. Jacques Mukonkole.
Cette sensibilisation cible particulièrement les jeunes ainsi que les victimes des guerres et des violences enregistrées régulièrement pendant les périodes électorales et post-électorales. Selon Héritier Mumbere, chargé des programmes à Congo Peace Network, l'objectif est de faire d'eux des constructeurs de la paix.
Consolider encore cela et commencer à rentrer dans les moindres détails. Comment est-ce que j'arrive à savoir que tout ce que je suis en train de faire, en pensée, en parole et en action, que ça puisse servir bien évidemment de construire détruire la paix plutôt que d'en anéantir.
La désinformation et les messages de haine causent des préjudices à bien des gens pendant et après les élections. Décapatants sont les gens aussi bien à Kisangani qu'ailleurs. Les jeunes disent être suffisamment édifiés pour ne plus jouer à ce jeu qui met en mal la cohésion sociale.
Nous allons nous mettre en œuvre, chercher comment contourner ça, sensibiliser pour ne pas désinformer la jeunesse.
Sauver la vie de la communauté face aux informations et aux déformations dont nous sommes responsables à la diffusion ou à la déformation.
Cette campagne de lutte contre la désinformation et le discours de haine concerne dans un premier temps les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema ainsi que la Tchopo avant de s'étendre dans d'autres juridictions. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Parlons de la conférence ministérielle de Berlin axée sur l'avenir des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-premier ministre de la Défense qui conduit la délégation congolaise a engagé hier des discussions stratégiques avec des hauts responsables onusiens, dont la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Au cours de ces forums de paix, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a mis en lumière les défis spécifiques auxquels la RDC est confrontée en matière de sécurité. Guy Kabombo Mudyamvita a plaidé pour les renforcements des partenariats internationaux en faveur de Kinshasa. En marge de cette conférence, le patron de la Défense nationale a également tenu des réunions bilatérales avec les ministres fédéraux allemands des Affaires étrangères et de la Défense, Johann Wadepool et Boris Pistorius. Ces échanges ont porté sur les renforcements de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Berlin, notamment dans les domaines de la sécurité, de la réforme du secteur de la défense et du soutien aux missions de maintien de la paix. La participation active de la RDC à ces discussions témoigne de son engagement à contribuer à la stabilité régionale et mondiale.
Justice en plus bref. Ouverture hier dans la cité de Mwanda au Congo central de l'audience en flagrance du militaire de la force navale, auteur de la fusillade dimanche dernier dans l'église Betsaïda de la communauté des assemblées de Jeuzi et le chemin situé à Banana, kilomètre 5, devant le tribunal militaire des garnisons de Kitona qui siège à la tribune du territoire de Mwanda. Le prévenu Médard Katonzi, adjudant en chef d'une cinquantaine d'années, a reconnu avoir ouvert le feu sur des fidèles à l'église, tuant deux personnes et blessant grièvement trois autres, sans mention de ses motivations. Cette affaire est renvoyée au 28 mai pour la suite des audiences. Santé, augmentation des cas de choléra dans la province du Maniema, la fréquentation des malades et à l'unité de traitement de cette maladie basée à l'hôpital général de Kindu est passée de 4 cas à 8 voire 12 cas par jour. Selon le médecin directeur qui nous livre l'information, le problème d'eau potable est la cause majeure. Ainsi, il invite la population au respect des mesures édictées par les autorités pour couper la chaîne des contaminations. On écoute le docteur Jean Bourédi au micro de Florence Kizalonga.
La situation ces derniers temps est un peu inquiétante parce que nous recevons de plus en plus les cas maintenant là. Déjà la 19e semaine épidémiologique, nous avons enregistré une moyenne de au moins 8 malades par jour. Donc vous allez comprendre que nous sommes passés de 4 malades en moyenne à la semaine 14 et 15 et ces derniers temps c'est 8 malades par jour. Et par moment les cas peuvent aller au-delà de 8 et on peut avoir 10, 12 malades, mais la moyenne est de 8. Et vous savez, la couverture en eau potable ces derniers temps pose un problème et c'est comme ça que l'aspect wash n'est pas encore bien pris en charge. Et la plupart des malades nous viennent aussi en amont et en aval du fleuve Congo. Avec la montée des eaux du fleuve Congo, tout cela peut expliquer l'augmentation des cas de choléra dans notre unité de traitement de choléra. L'aspect pris en charge continue à être assuré par le partenaire de l'État qui est MSF. Il nous vient vraiment en aide. La prise en charge est globale et ça se passe bien jusque-là de ce côté-là.
Dans le même chapitre, la province du Maïndombe est endémique à plusieurs maladies tropicales négligées, MTN, qui affectent la population depuis des années. C'est dans ce cadre qu'une délégation du Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées venue de Kinshasa et conduite par le docteur Jean-Paul Tamboué, accompagné du médecin, coordonnateur provincial du dit programme dans les Maïndombe, le docteur Martin Batokunyama, a rencontré lundi le gouverneur des provinces, Lebon Kosokevani. Les échanges ont tourné autour de cette situation et de la deuxième campagne de distribution gratuite des médicaments à la population pour éliminer ces maladies. Irène Mboma.
Au sortir de cette rencontre tenue mardi entre la délégation nationale et provinciale du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et les gouverneurs de la province du Maïndombe Nkoso Kevani Ayinongo, le directeur adjoint de ce programme en République démocratique du Congo et chef de la délégation, a fait savoir que le Maïndombe est touché par les maladies tropicales négligées dans les différentes zones de santé. Docteur Jean-Paul Tamboué.
Le programme s'occupe de 5 maladies tropicales négligées, mais il y en a 4 qui ont été cartographiées dans la province. Vous avez l'onchocercose, dont la complication majeure, c'est la perte de la vue. Et 2 zones de santé sont concernées par cette maladie, zone de santé de Kiri et de Pendjoa. La deuxième maladie, c'est la filariose lymphatique, qu'on appelle couramment éléphantiasis. Et ça, vous avez dans les 13 zones de santé en dehors de Inongo. Vous avez les schistosomiases, qu'on appelle bilharziose. Vous avez aussi les géoselmentiases, ou les vers intestinaux qui sont transmis par le sol. Et vous les avez dans 9 zones de santé.
Docteur Tamboué annonce que la deuxième phase 2024 de la campagne de masse de distribution des médicaments contre les MTN aura lieu dans quelques jours dans les 14 zones de santé qui comptent les Maïndombe. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province de Lomami, une semaine après le scellage de l'antenne de la banque Tembe, la direction générale de cette institution bancaire vient de réagir. Dans une correspondance adressée à la direction générale des recettes de Lomami, la Tembe affirme que les bailleurs de l'immeuble mis en location qui reçoit les frais des loyers est celui habilité à payer l'impôt sur les revenus locatifs et non la banque qui est actuellement locataire. Des explications avec Esther Dalafina.
Dans sa correspondance, la TMB énumère les loyaux services sociaux qu'elle offre à la population et qui sont actuellement bloqués suite au scellage de sa succursale de Mouenéditou. C'est notamment la paye des militaires, des policiers, des fonctionnaires, des agents de l'État et autres retraités. En ce qui concerne le paiement de l'impôt sur le revenu locatif, la TMB affirme qu'elle est locataire. Par conséquent, le propriétaire de l'immeuble mis en location, qui est le bénéficiaire des revenus, est mieux placé pour le paiement de cet impôt. Pour la TMB, la loi prévoit d'autres mesures de poursuite pour permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Elle demande à cet effet à la Direction générale des recettes de Lomami de lever la mesure de fermeture provisoire de la banque et d'annuler tous les actes dont l'avis de recouvrement à charge pour cause d'absence d'objectif et d'illégalité. Malgré cette correspondance, les portes de la TMB Mouenéditou sont toujours fermées, signale-t-on. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
La 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière se tient cette année sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo ». L'Organisation mondiale de la santé OMS a lancé une nouvelle boîte à outils pour aider les gouvernements à promouvoir la mobilité active tout en renforçant la sécurité. Stanislas Richard Diomi.
Chaque année, près de 1,2 million de personnes perdent la vie sur les routes, dont plus d'un quart lorsqu'elles se déplacent à pied ou à vélo. Pourtant, 0,2% des routes dans le monde seulement sont équipées des pistes cyclables et les communautés sont beaucoup trop nombreuses à ne pas disposer des services de base comme des trottoirs ou de passages piétons sûrs. La marche et les vélos sont bons pour la santé et rendent les villes plus durables. Chaque pas et chaque coup de pédale contribuent à réduire les embouteillages, la pollution de l'air et les maladies, a déclaré le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS. Mais nous devons garantir la sécurité des déplacements à pied et à vélo pour que davantage de personnes optent pour ces moyens de transport plus sains et plus écologiques.
Actualité internationale.
D'abord en Centrafrique, 10 jours après l'extradition du chef rebelle Armel Sayo à Bangui, le gouvernement a enfin réagi. Ces chefs du groupe armé de la coalition militaire pour le salut du peuple avaient repris les armes en 2024, malgré la signature de l'accord de paix en 2019. Le gouvernement a salué son arrestation en janvier au Cameroun. Et puis au Mali, en vertu d'un décret présidentiel adopté ce mardi 13 mai, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire. Cette dissolution était en préparation depuis plusieurs semaines et avait suscité un début de contestation inédit dans le pays.
L'invité.
C'est Josué Aruna, coordonnateur du bureau de la société civile environnementale au Sud Kivu. Il revient sur les éboulements et glissements des terrains dans les territoires de Calais et Fizi. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Josué Haruna, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Les éboulements et les glissements des terres font de plus en plus de victimes dans la plupart des provinces de la République démocratique du Congo et plus particulièrement dans les territoires de Kalehe et Fizi. Tout récemment, ici, nous sommes dans la province du Sud-Kivu. Ces calamités peuvent-elles être évitées?
Moi, je pense que ce qui est important pour le moment, que ce soit à Kalehe, à Uvira et Fizi, la situation est restée la même, voire même à Mwenga. Nous avons connu des éboulements, nous avons connu des glissements de terrain. Le comble est qu'il y a des initiatives qui ont été menées dans les provinces, dans la province du Sud-Kivu, mais qui n'ont pas été capitalisées par les entités territoriales décentralisées, mais aussi par le gouvernement provincial. Donc, c'est dire que il y a nécessité de mise en place d'une politique de restauration des paysages dégradés. Vous savez, la province du Sud-Kivu, notamment les entités qui sont concernées par ces éboulements, ont été envoyées par la présence de réfugiés depuis des années, qui ont érigé domicile et qui ne vivaient que de l'exploitation du bois pour faire les makala et consorts. Et aujourd'hui, c'est une vingtaine d'années après que les conséquences sont en train de se faire sentir.
Les HCR devraient-ils avoir un rôle à jouer pour contribuer à la stabilisation de l'écosystème dévasté par les réfugiés sous sa protection?
Le comble est que quand les HCR viennent en appui au gouvernement et à la sous-région, n'a jamais planifié des actions de restauration en installant des réfugiés dans une zone. Donc, ce qui est important pour aujourd'hui, c'est la mise en place d'une politique locale et des stratégies locales de restauration des paysages qui sont dégradés. Et ceci nécessite d'inclure ces aspects dans le budget des provinces, des entités territoriales décentralisées, pour que cela soit vraiment pris en compte dans les initiatives de développement local. Et que ce ne soit pas seulement des initiatives qui viennent parce qu'il y a eu éboulement, il y a eu ceci, mais au niveau de chaque entité territoriale décentralisée, que cela soit une appropriation.
Pourquoi recommandez-vous aux entités territoriales décentralisées et aux gouvernements provinciaux de tenir compte de cet aspect lors du vote de leur budget?
Je pense que si tout le monde s'implique pour gérer un espace qui a été dégradé dans son entité, on arrivera à résoudre la question de la dégradation. Et aussi, nous en appelons à la conscience collective des membres de communauté que nous sommes déjà devant un fait accompli. Nous devons avoir le courage de mettre en place des initiatives qui peuvent nous permettre de réduire les effets de dégradation des paysages qui nous causent aujourd'hui des morts et des pertes en vie humaine, mais aussi des pertes de biens et de pertes de nos champs, mais aussi la réduction des espaces qui devraient contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire, parce que les zones qui sont en dégradation, la couche supérieure qui devrait maintenir la fertilité et qui est composée des éléments nutritifs du sol, est érodée, voire soit vers le lac Kivu, vers le lac Tanganyika et consorts, avec tout ce que nous sommes en train de connaître dans la zone. Ce sont les mêmes phénomènes qui se répètent et qui devraient aussi interpeller les autorités nationales pour voir comment aider les provinces, aider les entités qui sont concernées, surtout les entités territoriales décentralisées, et mettre en place un plan de contingence, mais aussi un programme de restauration spécial pour essayer un peu d'éradiquer la situation.
Josué Haruna, merci.
Voilà, notre invité, le coordonnateur du bureau de la Société Civile Environnementale au Sud-Kivu, était interrogé par Jean Kassami. Par ici s'achève ce journal, coordonné par Élisée Chikota et supervisé par Martin Sebujangwe. Pierre Diassinois a assuré la mise en onde et Grâce Amzati était à la présentation. Merci.